écoutez RFI, il est 6h à Dakar, 7h à Alger, 8h ici à Paris.
RFI Matin.
Et le journal de Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une, la fin de la parenthèse olympique à Paris.
Et les Jeux paralympiques se sont achevés hier au Stade de France. La flamme s'est éteinte après une nouvelle soirée de fête. Reste la nostalgie mais aussi l'héritage de cet été olympique. C'est en tout cas ce qu'espèrent les para-athlètes. Vous les entendrez dans ce journal. Dans cette édition également, Abdelmajid Tebboune qui rempile pour un second mandat en Algérie. L'opposant vénézuélien désormais en exil en Espagne. Edmundo González Urrutia qui appelle à poursuivre la lutte pour la démocratie au Venezuela. L'Ukraine qui demande à ses alliés de l'aider à abattre les drones russes sur son espace aérien. Et puis, le groupe était sous la menace d'une grève dure. Boeing va augmenter les salaires de ses salariés, plus 25% de hausse progressive.
Et une nouvelle fois, hier, le Stade de France, Jeanne, transformé en immense lieu de fête.
Et la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris, marquée par la prestation de Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électro en France. Concert géant aux côtés de 23 autres DJ, Kavinsky, Cassius ou encore Martin Solveig. Avant cela, la flamme paralympique s'était éteinte. Et comme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet, eh bien la pluie s'était de nouveau invitée à Paris. Reportage Amélie Beaucourt.
Ils se terminent comme ils ont commencé en juillet, sous une pluie battante. C'est dans un stade de France arrosé que les athlètes ont mitouflé dans leurs imperméables. On dit au revoir à Paris en musique. C'est une parenthèse festive, douce comme un amour de vacances d'été que referme Tony Estanguet, le papa de Paris 2024.
Les Jeux de Paris 2024 se terminent, mais leur message, lui, ne s'éteint pas ce soir. Continuons d'essayer, d'échouer, de se relever. Continuons de faire, continuons d'y croire. Et surtout, continuons d'oser.
Un mot d'adieu également en chanson qui a fait couler quelques larmes. Amadou et Mariam reprennent Serge Gainsbourg au milieu du jardin des Tuileries.
Que je m'en vais. Que tes larmes ne pourront rien changer.
Celle qui s'en va ce soir, c'est la flamme paralympique, au souffle d'Aurélie Aubert, porte-drapeau française. Une première médaille d'or en boccia et des larmes de joie que le public n'est pas prêt d'oublier. La vasque montgolfière, emblème des Jeux, s'éteint, mais la fête n'est pas finie. 24 DJ se sont succédés derrière des platines trempées pour prolonger le plaisir une heure de plus. Avant le prochain rendez-vous des Jeux, ce sera à Los Angeles dans 4 ans.
One More Time de Daft Punk, les grands absents de ce concert. Le duo est aujourd'hui séparé. C'est Martin Solveig qui était au platine hier et le drapeau paralympique a lui été transmis à Los Angeles du côté des tableaux des médailles. En France, à Paris, la Chine, ça a littéralement survolé cette édition des Jeux paralympiques. 220 médailles à Paris, dont 94 en or devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, a fini 8e. Paris 2024, qui a établi une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques. Voilà ce qu'a déclaré hier soir Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. Ces JO qui ont été évidemment un succès populaire. Le chef de mission de l'équipe de France, Michael Jeremias, attend lui désormais de voir concrètement les effets positifs de ces Jeux sur le quotidien des personnes en situation de handicap.
Moi, j'étais très très soucieux de savoir ce que les étrangers en pensaient. Et en fait, ils sont dithyrambiques. Et j'ai beaucoup d'amis athlètes et encadrants anglais m'ont dit on est ultra fiers de ce qu'on avait fait en 2012 et on sait qu'on a mis la barre haute. Vous avez organisé les plus grands Jeux paralympiques de l'histoire. Donc c'est évidemment une fierté parce que c'est beaucoup de boulot. On n'a pas la même culture qu'en Angleterre, on vient de plus loin. Eux, ils ont réussi à faire extraordinaire il y a 12 ans. Il nous a fallu 12 ans pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc ouais, c'est évidemment une fierté. Après, c'est potentiellement l'arbre qui cache la forêt, la question de l'accessibilité. Oui, l'accessibilité des sites de compétition. La réalité, c'est que l'accessibilité au global, on a là énormément de travail à faire. C'est pas uniquement de faire comme pour la cérémonie d'ouverture, de mettre un peu de goudron pour qu'on soit pas emmerdé avec des pavés. Le goudron, il est enlevé quelques heures après. Donc comment on va, de manière plus structurée, s'assurer que ces enjeux-là soient engagés? Ce serait le début peut-être d'une accélération de cette transformation.
Voilà, au travail, le message de Michael Jeremias au micro de Christophe Diremzian du service des sports d'RFI.
En Algérie, il rempile pour un second mandat à la tête de l'État.
Abdelmadjid Tebboune réélu hier, score écrasant, 94,65% des voix. Il était donné grand favori de ce scrutin. Face à lui, les deux candidats de l'opposition n'ont obtenu qu'un peu plus de 2 et 3% des voix. Le directeur de campagne d'Abdel Ali Hassani, le leader du principal parti islamiste, a lui qualifié de mascarade les chiffres de participation annoncés par l'autorité électorale. 48% de participation moyenne à 20h, chiffre qui avait été présenté comme préliminaire. Pour Zoubida Hassoul, présidente du parti d'opposition l'Union pour le changement et le progrès, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas de légitimité populaire. Écoutez.
Si on regarde encore une fois le taux de participation, je peux déjà vous dire que le fossé est de plus en plus énorme entre les citoyens et le pouvoir en place. La légitimité, c'est quoi? C'est l'adhésion de, au moins d'une grande majorité du peuple autour d'un projet, que ce soit d'un président sortant ou d'un autre candidat. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez que le corps électoral est composé de plus de 24 millions d'électeurs et d'électrices et qu'au finish, il n'y a que 5 millions et demi à peu près de votants. Donc, je ne pense pas qu'un président dont le corps électoral ne dépasse pas les 23%, on puisse parler de légitimité populaire.
Zoubida Hassoul, jointe par Alexandra Branjon. L'Algérie touchée par des pluies torrentielles qui ont aussi frappé le sud du Maroc ces derniers jours. 17 provinces marocaines sont touchées. Le bilan officiel fait état d'au moins 11 morts, 9 disparus depuis vendredi dernier. En Algérie, ce sont 2 personnes qui ont été emportées par les flots. Elles sont toujours recherchées dans la région de Tamanrasset.
Il appelle depuis l'Espagne à continuer la lutte pour la démocratie au Venezuela.
L'opposant Edmundo González Urrutia, candidat à la dernière présidentielle face à Nicolas Maduro. Il a obtenu l'asile politique en Espagne. Il était sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt dans son pays. Edmundo González Urrutia qui a dû fuir pour préserver sa liberté et sa vie. Voilà ce qu'a déclaré la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado. Soutien un peu plus mitigé, en revanche, dans les rues de Caracas. Reportage Alice Campagnol.
C'est la fin de la saison pour cette pièce de théâtre bouffon, avec comme dernière scène celle des Mundo González Urrutia, son personnage principal faisant ses adieux.
Pour Tarek William Saab, le procureur de la République du Venezuela, l'asile d'Edmundo González signe la fin de l'opposition, dont les péripéties sont suivies de près depuis plus d'une année au Venezuela. Pourtant, ses partisans voient les choses autrement, comme Ezequiel Fermín.
C'est stratégique de partir, car ici, il est très menacé. À quoi servirait-il enfermé ici? À l'étranger, il sera plus utile.
Mais tous n'ont pas l'optimisme de ce père de famille. L'annonce du départ de l'opposant en a démoralisé plus d'un, aujourd'hui déçu et sans espoir, comme Anaïs.
Je suis triste car j'avais beaucoup d'espoir avec cette opposition. Et maintenant, on ne sait pas quels sont les plans. Que peuvent-ils faire en dehors du pays? C'est vraiment triste.
Après ce départ, les supporters de l'opposition seront-ils toujours aussi mobilisés dans la rue comme ils l'ont été ces dernières semaines? Rien n'est moins sûr. La dirigeante Maria Corina Machado a pourtant affirmé avec certitude qu'Edmundo González Urrutia sera bien investi président le 10 janvier prochain. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
L'actualité, c'est aussi le Mexique. Des milliers de personnes, en majorité des employés de l'administration judiciaire et des étudiants en droit, ont manifesté hier à Mexico contre une réforme judiciaire qui prévoit que les juges et les magistrats du pays soient désormais élus par un vote populaire. Les détracteurs de cette réforme, parmi lesquels figurent aussi les États-Unis et les organisations de défense des droits humains, estiment qu'elle portera atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire en le politisant. Pire, selon eux, les trafiquants de drogue pourraient plus facilement contrôler les juges en s'immisçant dans leur élection.
Le pape François est arrivé à Dili, la capitale du Timor oriental.
Une visite dans le cadre de sa tournée en Asie après son passage en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le souverain pontife doit s'exprimer devant les autorités au palais présidentiel avant une messe géante prévue demain. Cette visite qui est la première depuis l'indépendance du Timor oriental en 2002.
La guerre en Ukraine et Kiev qui demande à ses alliés de l'aider à abattre les drones russes.
Alors que la Russie intensifie en ce moment ses attaques aériennes, des drones russes se sont écrasés hier en Roumanie et en Lettonie, deux membres de l'OTAN. Les détails à Kiev avec Alexander Kerry.
Andriy Sybiha, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a exhorté hier les alliés de Kiev à utiliser leur système de défense anti-aérien pour abattre les drones et les missiles russes dans l'espace aérien ukrainien. Sybiha les a appelés à, je cite, « une décision collective audacieuse ». Fin de citation. Cette requête fait suite à la violation des espaces aériens par des drones russes en Roumanie et en Lettonie, pays membres de l'OTAN. Un drone est brièvement entré dans l'espace aérien roumain et aurait frappé une zone non résidentielle près de la frontière ukrainienne avant de repartir vers l'est dans la nuit de samedi à dimanche. Un autre drone s'est écrasé en Lettonie où le président Edgars Rinkevich a appelé à une réponse collective à ces incidents, en soulignant que leur nombre augmentait sur le flanc est de l'OTAN. Ces violations ont eu lieu alors que la Russie intensifie ses attaques meurtrières sur l'Ukraine, tuant près de 90 personnes en une semaine à travers le pays, dont 58 à Poltava mardi dernier et 7 à Lviv, dans l'ouest du pays, le lendemain. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé plus de 800 bombes planantes, près de 300 drones Shahed et plus de 60 missiles sur l'Ukraine la semaine passée. Alexander Kerry, à Kiev, pour RFI.
Et puis une importante hausse de salaire, c'est l'une des promesses faites par Boeing aux États-Unis pour éviter un vaste mouvement de grève.
Et l'avionneur américain a conclu ce week-end un accord de principe avec les représentants syndicaux, une victoire pour les employés, alors que la compagnie traverse une crise depuis maintenant plusieurs mois. À New York, le récit de Louvna Naki.
L'accord a été salué par les représentants syndicaux. Après un mois de négociations, Boeing s'engage à augmenter les salaires des employés de ses usines de Seattle et Portland dans le nord-ouest des États-Unis, plus 25% sur les 4 prochaines années. La compagnie promet aussi un congé parental payé de 12 semaines, une meilleure sécurité de l'emploi, des prestations de retraite améliorées, ainsi que la construction du prochain avion commercial du groupe dans cette région. L'accord doit encore être validé par les 32 000 salariés cette semaine. S'il est adopté, ce sera une première victoire pour la nouvelle présidente de Boeing, Kelly Ortberg, qui a pris ses fonctions il y a tout juste un mois. Tout cela alors que l'avionneur traverse une grave crise depuis plusieurs mois après une série d'incidents en vol, sans oublier les mésaventures de sa filiale spatiale Starliner. Kelly Ortberg a pour mission de redresser et de redorer l'image de Boeing. Loubna Naki, New York, RFI.
New York où il est 2h12, 8h12 ici à Paris. Tout de suite, vous retrouvez Nathalie Amar.
Merci Jeanne Bartoli, vous revenez vous pour le journal de 10h. Et d'ici là, c'était RFI Matin avec la rédaction et nos correspondants. Lundi 9 septembre, on va retourner d'ailleurs aux États-Unis d'ici au cours des deux prochaines heures. La guerre à Gaza s'est invitée dans la campagne pour la présidentielle de novembre. Reportage tout à l'heure dans le Michigan avec notre envoyée spéciale Anne Verdaguet. La France également à la une avec parmi les chantiers qui attendent le gouvernement Barnier, le futur gouvernement Barnier, la crise de l'hôpital public. On en parlera dans Aujourd'hui L'écho, c'est le retour de la chronique aujourd'hui, puisque c'est à l'hôpital Necker que le Premier ministre, à peine nommé, a réservé samedi son premier déplacement. Michel Barnier qui travaille donc à former le prochain gouvernement dans les prochains jours, dit-il. François Bayrou du Modem ou Édouard Philippe du parti Horizon ont été reçus hier, alors que la gauche, une partie de la gauche en tout cas, dénonçait samedi dans la rue un coup de force de la part d'Emmanuel Macron qui a nommé un Premier ministre de droite. Notre invité dans 5 minutes, la députée La France Insoumise de Paris, Daniel Obono. Et puis 8h50, le directeur du Timbuktu Institute, Bakary Sombe, avec Christophe Boisbouvier. Comment les djihadistes recrutent-ils parmi les jeunes dans le nord du Bénin? Un récent rapport de l'Institut se penche sur la question. Tout de suite, les sports. Le journal des sports avec vous, Babacar Diarra, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Et le rideau qui est définitivement retombé sur un été sportif et festif à Paris.
Les 17e Jeux Paralympiques se sont refermés hier soir au Stade de France avec une cérémonie de clôture conclue sous la pluie par un set d'artistes électro. Le tableau d'honneur sportif est sans surprise. Comme lors de toutes les éditions depuis 2004, la Chine triomphe avec un total de 220 médailles, dont 94 en or, devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, est 8e avec 75 médailles, dont 19 en or. Elle a rempli son objectif de remonter à ce rang à la grande satisfaction de Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique sportif français.
On est dans ce top 8 paralympique qu'on espérait. Et si on regarde un petit peu en arrière par rapport à Rio, c'est un nombre de médailles qui a été triplé. Par rapport à Tokyo, c'est plus 8 médailles d'or. Donc oui, c'est une véritable réussite sportive. Mais au-delà finalement des athlètes médaillés, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est l'engagement de tous nos athlètes, ce qu'ils ont démontré sur l'ensemble des terrains de pratique. Et tout comme nous, on avait été inspirés par la précédente génération, moi je suis persuadée que cette génération qui a été beaucoup plus médiatisée, qui a été beaucoup plus suivi, où on a eu beaucoup plus de spectateurs et téléspectateurs, va vraiment ouvrir le champ des possibles à toute la future génération.
Marie-Amélie Le Fur, interrogée par Christophe Diremzio.
En football, l'équipe de France veut éviter un nouvel affront face à la Belgique à Lyon.
Trois jours après leur lourde défaite face à l'Italie, les Bleus disputent ce soir à 21h heure française, leur deuxième journée de Ligue des Nations. Avec de nombreux doutes, les Bleus auront à cœur de mettre fin à leur mauvaise dynamique et à leur série de deux défaites consécutives, la pire depuis 2015. Hier, toujours en Ligue des Nations, l'Espagne à 10 contre 11 pendant 70 minutes s'est imposée 4-1 en Suisse. Le Portugal a arraché un succès 2-1 face à l'Écosse grâce à un but en fin de match de l'indémodable Cristiano Ronaldo.
Et puis en tennis, Jannik Sinner a fait respecter la hiérarchie en finale de l'US Open.
Implacable en un peu plus de 2 heures, le numéro 1 mondial italien a largement dominé l'américain Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5. C'est la première fois qu'il s'impose à Flushing Meadows. Sinner décroche ainsi son deuxième titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en janvier. La quinzaine avait commencé dans la controverse pour lui en raison d'une affaire de dopage dont il est sorti blanchi. Mais sur les courts, le joueur de 23 ans a tenu son rang, même s'il estime avoir encore de la marge.
C'est une année incroyable, non ? Tellement de belles victoires cette saison, en commençant par l'Open d'Australie en janvier dernier. Le fait de bien jouer à ce moment-là m'a donné tellement de confiance jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le travail ne s'arrête jamais. Je sais que je peux encore m'améliorer. Tout n'a pas été parfait lors de cette finale. On doit être fier de ce qu'on a accompli avec l'équipe. J'ai vraiment hâte de poursuivre ma progression.
L'Italien Jannik Sinner, vainqueur de l'US Open.
Et Babacar Diarra qui revient à 9h42 pour d'autres infos. Il sera question notamment des éliminatoires de la CAN 2025 de football. C'est la suite ce lundi de la deuxième journée de phase de poule. Un nouveau gouvernement en France dans les prochains jours, a dit en prenant ses fonctions vendredi le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier qui a fixé ses priorités dans l'ordre, l'accès aux services publics, la sécurité, la maîtrise de l'immigration, le travail, le pouvoir d'achat et le redressement des finances publiques. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Nathalie.
Aujourd'hui l'économie, le retour de la chronique avec vous ce matin. Parmi les dossiers brûlants qui attendent ce futur gouvernement, il y a la santé et en particulier la crise à l'hôpital.
Oui, je rappelle ce chiffre, il y a 15 000 postes de médecins non pourvus à l'hôpital et pourtant rien n'a été fait cet été pour régulariser la situation des médecins étrangers. Il faut avoir en tête qu'à l'hôpital, presque un médecin sur trois a été formé hors de France et pour la moitié d'entre eux, dans un pays extérieur à l'Union européenne. Dans le jargon, on les appelle les PADU. Zaineb, par exemple, est marocaine, diplômée de la faculté de médecine de Casablanca et aujourd'hui, elle est radiothérapeute dans un hôpital du nord de la France.
Dans le service où je travaille, il y a deux praticiens hospitaliers et moi. Donc, on est trois médecins pour tout le département dans lequel je travaille. J'ai mes propres patients, j'encadre un interne.
Voilà, ils assurent les gardes, ils encadrent les internes, mais ils ne sont pas reconnus comme des médecins à part entière. Pour ça, ils doivent passer un examen de validation des compétences, un examen qui porte mal son nom, puisque dans les faits, il s'agit d'un concours avec à chaque fois un nombre limité d'élus. Chaque année, des médecins en poste, qui exercent parfois depuis des années en France, échouent, c'est le cas de Zaineb.
Je vous donne mon exemple, j'ai eu 13,5 dans l'épreuve. L'année dernière en oncologie, le seuil était de 13,95, donc je n'ai pas été retenue pour une histoire de virgule.
Et que se passe-t-il, Nathanaël, pour ces médecins, dans le cas où ils ne sont pas retenus ?
Alors, sous la pression des hôpitaux, le gouvernement d'Elisabeth Borne avait promis de ne pas les laisser sans solution. Une loi a été votée fin 2023, prolongeant leur autorisation de travail pour 13 mois renouvelables. Sauf que le décret d'application n'a jamais été publié. Et ça met Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France et responsable de la CGT Santé, très en colère.
On se retrouve dans une impasse avec un certain nombre de médecins qui ont quitté leur poste, ce qui a entraîné des fermetures de consultations, des fermetures de lits. Un certain nombre sont même rentrés dans leur pays d'origine. Moi, il y a un collègue qui est rentré chez lui au Rwanda parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de rester en France, alors qu'il avait été responsable d'une réanimation en Auvergne pendant toute la période Covid. Il y a quand même un problème.
Alors on voit effectivement le problème, Nathanaël. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les réticences du gouvernement ?
Eh bien, la semaine dernière, les hôpitaux publics ont alerté sur leur situation financière. Leur déficit continue de s'aggraver et devrait dépasser 2 milliards d'euros cette année. Or, les PADHUE, quand ils arrivent, sont payés 1700 euros bruts, beaucoup moins qu'un médecin français et même moins qu'un interne. Et même quand ils bénéficient de ce fameux statut temporaire, ils restent largement sous-payés. Zaineb gagne 5 fois moins que ses collègues, 5 fois moins. Si tous les PADHUE voyaient leur diplôme reconnu, il faudrait les payer comme des médecins français. Christophe Prudhomme a une explication plus cynique encore.
Mais il faut être clair, de toute façon, les PADHUE assurent leur service dans des hôpitaux de petite taille que le gouvernement veut fermer. Donc, en faisant fuir les PADHUE, n'ayant aucun médecin pour les remplacer, ça permet d'accélérer les fermetures de services et l'hôpital de proximité.
Voilà, autant dire Nathalie que la position du nouveau gouvernement sur ce dossier sensible est très attendue.
Sur ce dossier et sur d'autres encore. Merci Nathanaël Vitron, c'était aujourd'hui l'économie. 8h20 à Paris, ces dossiers qui attendent le futur gouvernement Barnier. On continue de les évoquer à présent avec notre invité. Bonjour Daniel Obono.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Député LFI, Nouveau Front Populaire. Il y a évidemment parmi cette multitude de chantiers, celui des retraites. La réforme qui a fait passer l'âge légal de 62 à 64 ans, qui a mis des milliers et des milliers de Français dans la rue. Le programme du NFP pour les législatives évoquait lui un retour de l'âge légal à 60 ans. Je vais ouvrir le débat pour l'amélioration de cette loi, a dit Michel Barnier vendredi lors de sa première interview. La gauche pourrait-elle, serait-elle prête à engager cette discussion avec le futur gouvernement ?
Écoutez, nous avons été élus avec un programme clair, c'est l'abrogation, et c'est ce que nous défendrons à l'Assemblée nationale dès que nous aurons l'opportunité de pouvoir le faire.
Même si, comme le réclame la CFDT, la loi est suspendue pour entamer des discussions, pour vous, il n'y a pas de discussion possible, c'est ça ?
Ah ben, faut qu'elle soit suspendue de manière indéfinie, oui. Écoutez, donc, vous l'avez dit vous-même, c'est un des plus grands mouvements sociaux qu'il y a eu dans ce pays, y compris parmi l'électorat d'Emmanuel Macron, une majorité était pour son abrogation. Je rappelle que c'est 2 ans de vie volés avec un impact particulier pour les plus vulnérables, les femmes, les métiers les plus pénibles. Et donc, c'est le symbole, en fait, de l'injustice de ce gouvernement et de sa politique antisociale. Et pour nous, c'est un élément fondamental du programme pour lequel nous avons été élus.
Pourvu, il n'y a aucune avancée sociale à attendre de ce gouvernement-là, Daniel Obono ?
Écoutez, Emmanuel Macron, d'après les fuites de presse, l'a dit lui-même, il ne souhaitait pas nommer Lucie Castet à Matignon alors qu'elle aurait dû l'être, étant la candidate du Nouveau Front Populaire arrivée en tête, parce qu'il ne voulait pas les avancées sociales, les propositions que le peuple français avait mis en tête à travers notre programme, notamment l'augmentation du salaire minimum et de l'ensemble des salaires par... la suite et l'abrogation de la réforme des retraites ainsi que toutes les propositions de justice fiscale. Et donc, il a choisi, avec l'approbation, la collusion même de Madame Le Pen, un Premier ministre qui est censé refaire la même politique qu'il fait depuis 7 ans et qui a mis l'hôpital public, les services publics dans cet état et avec un accroissement des inégalités que les Français et Françaises subissent au quotidien. Donc non, nous ne croyons pas qu'il va faire autre chose que poursuivre cette politique délétère.
La France, en tout cas, est sous forte pression de l'Europe, hein, puisqu'elle est visée par une procédure pour déficit excessif en 2024. Il atteindrait, selon les projections, 5,6% du produit intérieur brut. Il y avait, en théorie, jusqu'au 20 septembre pour communiquer un plan de réduction du déficit public. La France va demander un délai. Est-ce qu'on va arriver, d'après vous, à boucler, à tenir le calendrier qui est extrêmement serré pour le budget 2025? La loi fixe sa présentation au mardi 1er octobre. C'est tenable pour vous ?
Écoutez, il faudra attendre ce qu'en dit le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais vous le savez, c'est un choix qui a été fait justement pour contraindre la représentation nationale à accepter d'une certaine manière sous cette double pression. Mais je tiens à rappeler, c'est important quand même que tout le monde ait en tête que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays est le résultat de la politique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron et son ministre du budget, Monsieur Le Maire. Et donc, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vont arguer de cette situation dans laquelle ils ont mis le pays pour continuer cette politique. Parce que nous avons eu le déplaisir de voir que les ministres démissionnaires avaient envoyé des lettres plafond. Vous savez, c'est les axes budgétaires qu'ils souhaitent, alors qu'ils n'avaient pas la légitimité pour le faire. Ils avaient été battus pour le budget prochain. Et on annonce, et il semble déjà pour eux, évident, qu'ils vont à nouveau remettre en place une politique austéritaire et qui va produire les effets qui sont aujourd'hui mis en cause par l'Union européenne. Non, il faut une autre politique et nous, nous allons nous battre justement pour cette politique de justice fiscale qui permettra de donner de la respiration aux Français et aux Françaises et aussi à l'économie du pays.
Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, dit l'idée est de modifier profondément le budget en commission au point de le rendre NFP compatible. Qu'est-ce que ça signifie et surtout comment y arriver compte tenu de la physionomie de l'Assemblée nationale, Daniel Obono?
C'est la démarche qu'avait présentée Lucie Castet dans son courrier aux parlementaires en disant texte par texte, mesure par mesure, nous allons convaincre et tenter de convaincre les parlementaires que le partage des richesses, qu'une réforme fiscale véritablement, par exemple, qui met en place 14 tranches au lieu de 5, permettra de donner aux Français et Françaises plus d'équité et de justice fiscale qui est demandée largement et ramènera en fait des ressources. Tout le monde insistant sur le problème des dépenses, mais pour de notre point de vue, le problème c'est celui des recettes et des choix politiques qui ont été faits pour vider le trésor public au profit des intérêts privés. Et donc oui, nous allons le faire et nous avons eu l'occasion au cours des précédents mandats déjà de voir qu'il y avait des majorités possibles, par exemple sur la taxation des super profits. Nous savons que au sein du MoDem, l'ancien président de ce groupe parlementaire était favorable à ce genre de mesures. Et je crois que nous montrons justement mesure après mesure qui choisit l'intérêt général, l'intérêt du pays ou des intérêts particuliers. Chacun devra décider et
se positionner,
en conséquence.
Michel Barnier consulte en tout cas en vue de former son gouvernement. Il a reçu déjà l'ex-locataire de Matignon, Édouard Philippe. Il a reçu également le président du MoDem, François Bayrou. Il a dit aussi que ça ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Et il a dit vouloir ouvrir la table à tous ceux qui le voudront, y compris à gauche. On comprend que vous n'êtes pas ouvert, vous, à ce type de proposition. Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs, qui a été faite à une des composantes du NFP?
Écoutez, à ma connaissance, jusqu'ici. À notre connaissance, ce n'est pas le cas, mais je vois mal quelqu'un qui se dit de gauche, même avec beaucoup de guillemets, participer à un tel gouvernement. C'est quand même le premier gouvernement macrono-lepéniste et qui n'existe que parce que Madame Marine Le Pen a accepté l'alliance que lui a proposée Emmanuel Macron à l'encontre de ce qu'avaient exprimé les Français et les Françaises qui ont fait barrage à l'extrême droite et on dit on en a assez de la politique de Monsieur Macron. Et donc qui que ce soit la personne qui s'imagine de gauche qui serait prête à participer à ce gouvernement, je pense qu'il sera clair aux yeux de tous et toutes que c'est tout simplement quelqu'un de droite et qui est en accord avec la politique de droite qui va être mis en place par ce gouvernement.
Une toute dernière question, Daniel Obono. Samedi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues en France à l'appel d'organisations de jeunesse, de votre parti, mais aussi des écologistes et des communistes pour dénoncer, c'était le mot d'ordre du défilé, le coup de force d'Emmanuel Macron. Les socialistes n'avaient pas appelé, eux, à défiler. Est-ce qu'ils sont encore vos partenaires à part entière au sein du nouveau Front populaire?
Bien entendu, le Parti Socialiste fait partie du nouveau Front Populaire et il y avait énormément d'électeurs et même de militants que j'en ai croisés socialistes dans les rues. Il y a eu plus de 160 000 personnes à Paris, 300 000 dans tout le pays et je crois que une première mobilisation de la sorte montre la colère qu'il y a et le refus d'accepter ce coup de force. Nous avons près de 300 000 bientôt signataires de la pétition Macron destitution, Macron-destitution.fr. Je vous invite à aller la signer parce que ça nous donnera de la force et du rapport de force dans les prochaines semaines face à Emmanuel Macron et à son gouvernement soutenu par le RN.
Daniel Obono, député LFI de Paris, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans une minute, le journal sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
le rôle de la vaccination pour prévenir les maladies infantiles.
Demain,
vos questions sur l'hypertension artérielle et la santé cardiaque.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Frapper l'épopée est un roman dense, empreint de réalisme magique. Deux adolescents kanaks, une descendante de bagnards algériens, des activistes qui militent pour l'empathie violente. Alice Zénitaire entremêle ses personnages et démêle les fils du passé colonial et de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.